Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système. Hello.
Et ben voilà, il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est un travail de 4 ans. Une documentariste choisit deux couples en quête d'adoption. Elle fait son travail, filmer les étapes, créer une forme d'intimité avec la caméra, tisser un lien de confiance pour que dans chaque liesse et que dans chaque désespoir, elle puisse continuer à tourner. Ensuite, c'est la vie qui fait son travail. Et comme cela arrive parfois, la vie ose bien plus que les scénaristes d'une série. La vie ose des bonheurs trop parfaits et des injustices trop insupportables. À la documentariste de les faire se répondre pour qu'à la fin du film, ce soit la vie, tout simplement.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Anne Gainsburger.
Bonjour.
Roman d'une adoption, c'est ce soir, c'est sur France 2, 23h, dans la case infrarouge. Enfin, on va la voir. Cette vie se déroulait à l'écran après ces 4 années de tournage qui nous ont totalement bouleversés. Toute l'équipe de l'Instant M a été vraiment, vraiment très, très émue par ce film. On va en parler avec vous dans un instant. Romain Nigita est avec nous comme tous les mardis. Ça va Romain ?
Ça va très bien Sonia, bonjour.
Alors Romain, d'abord on fait un point sur l'actu des séries, ensuite on parle avec Anne Gainsburger d'adoption. Il y a tout pile 20 ans, on était en 1998. Et qu'est-ce qui se passait en 1998 ? Eh ben, la France avait gagné la Coupe du Monde. Et ça, je pense que tout le monde a compris et même que tout le monde va vite en avoir vraiment très très marre. En revanche, on a peut-être oublié ce qu'on avait découvert à la télé cette année-là.
Et oui, Sex and the City qui démarre aux États-Unis le 6 juin 1998 sur la chaîne HBO. C'est la chronique glamour de 4 copines new-yorkaises, Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda. Et leur vie sexuelle est détaillée sans tabou dans cette série. Alors HBO avait déjà diffusé Dream On sur les galipettes masculines. Et cette fois, c'est le point de vue des femmes qui s'impose. Sex and the City est basé sur la chronique bien réelle de Candace Bunchnell dans le New York Observer. Cette journaliste a même servi de modèle au personnage de Carrie. Et à la télé, ça donne des dialogues piquant qui peuvent encore choquer 20 ans après. Attention les oreilles.
Attention les oreilles, c'est-à-dire baisser le son s'il y a des enfants à côté de la radio, c'est ça?
C'est ça.
Devant, derrière, on s'en fout, un trou c'est un trou. Tu entends ce que tu dis?
Oh, pas la peine de faire ta mijaurée, ça te ferait pas de mal un petit coup par derrière.
Eh, je suis pas un trou. Oh, oh c'est bien, Charlotte. Tout ce que je voulais dire, c'est que si ça existe, c'est pour qu'on s'en serve. Ça fait aussi partie de notre corps, alors où est le mal? Et entre parenthèses, c'est merveilleux.
Qu'est-ce que vous racontez? J'ai grandi chez les bonnes sœurs.
Dis-toi qu'avec un homme qui a de l'expérience et un bon lubrifiant.
Voilà, notre invité rouge tomate. Bon, et en coulisses, c'était tout aussi libéré et avant-gardiste et la création de cette série.
Eh bien, en fait, la réalité est en demi-teinte. Si la série compte plus de femmes scénaristes que beaucoup d'autres à l'époque, elles sont en fait systématiquement dirigées par un homme.
Ah bon, oui,
quand même. Au début, c'est le créateur de la série, Darren Star, à qui on devait déjà Beverly Hills et Melrose Place, c'est bien lui. Et puis ensuite, rapidement, c'est Michael Patrick King qui devient le showrunner emblématique de la série.
Bon, alors, au-delà du sexe, c'est quand même aussi une comédie romantique. C'est toute l'ambiguïté, hein, d'ailleurs, de cette série qui donne autant dans le tabou
que dans le rose.
Ouais.
La comédie romantique, c'est évidemment un genre typique des années 90 et Carrie va donc entretenir une relation en pointillé avec le célèbre Mr. Big. Et cela va durer quand même 6 saisons pour un total de 94 épisodes jusqu'à un double épisode final tourné à Paris en 2004 et dans lequel apparaît Carole Bouquet. La série donnera ensuite naissance à 2 films et même à une série dérivée sur la jeunesse de Carrie dans les années 80.
Voilà, alors Sex and the City, ça marque aussi le début des grandes séries du câble. En fait, c'est aussi une révolution industrielle.
Totalement, puisqu'un an plus tôt, la même chaîne américaine, HBO, lançait l'extraordinaire série carcérale Oz.
Ouais.
Et 6 mois après Sex and the City, on est en janvier 99 et ce sont Les Sopranos. Voilà donc 3 séries qui vont non seulement faire sauter les tabous, mais aussi faire voler en éclats l'écriture traditionnelle des séries américaines, puisqu'elles osent mettre en scène des anti-héros au sein d'intrigues au long cours.
Voilà, et 20 ans après, Sex and the City, ça tient pas?
Bah, on l'a quand même entendu, les dialogues sont toujours aussi transgressifs.
Ouais, ça va.
Par contre, le panel de personnages est quand même un peu en décalage avec la société contemporaine. Ces 4 copines sont blanches, elles sont riches et elles sont hétéros. Ça a donc ouvert beaucoup de portes, mais un tel formatage paraît quand même assez impensable aujourd'hui.
On les ferait plus pareil. Hein.
Exactement. Non. D'ailleurs, 10 ans plus tard, 2 séries très similaires se sont plantées en beauté. C'était Cashmere Mafia et Lipstick Jungle.
Oublié.
L'une était produite par Darren Star et l'autre par Candace Bunchnell. Donc les 2 têtes pensantes à l'origine de Sex and the City. Mais aujourd'hui, la relève est plutôt à trouver du côté de séries comme Girls ou Insecure, dont les actrices principales sont aussi les créatrices. Elles sont vraiment au plus près des peurs, des doutes et des fantasmes de la nouvelle génération.
Ouais, c'est ça, une écriture quand même très très différente. Merci beaucoup Romain Nigita. Sex and the City, tout pile 20 ans.
L'instant M, tous les médias sont sur France Inter.
Anne Gainsburger, mon invitée, et elle signe roman d'une adoption.
Tu vois, j'ai pas réussi à te faire un enfant, quoi. Ça me fait chier, c'est tout. Ça, faut pas aller chercher plus loin que ça. C'est un vide et un manque que j'ai. Et que même si il y a l'adoption qui nous remplit de beaucoup plus de choses, et je pense que très franchement, je suis comme toi. Moi, j'en vis pas la place des autres. Mais malgré tout, c'est toujours quelque chose qui est en moi, que j'ai pas réussi à t'offrir à toi.
Et non, mais on, c'est on, donc oui, c'est un truc de nous deux. Enfin, tu vois, c'est. On n'a pas réussi. Enfin, non, on n'a pas réussi d'ailleurs.
Quand je parle de moi, c'est parce que tu me dis que ça m'affecte moins. Mais je le vis pas comme un raté 100% chez moi. Mais ça me rend moins triste qu'avant, hein, t'inquiète pas.
Je suis pas sûre, mais.
10 ans d'attente, 10 ans de doute de soi, de doute en l'autre, de doute à l'idée d'être deux. Quelle intimité, Anne Gainsburger, il faut gagner pour filmer ça dans une cuisine entre Céline et Cédric. Qu'est-ce que vous avez cherché? À ce qu'ils oublient votre caméra ou au contraire à ce qu'ils se l'approprient?
J'ai surtout cherché à les convaincre que je pouvais les accompagner dans ce moment, effectivement, où une caméra et une équipe, même légère, hein, on est simplement avec un caméraman, un ingé son et moi-même, on peut jamais oublier, quand même c'est beaucoup, absolument, quand même c'est beaucoup, et il faut effectivement s'être beaucoup parlé, s'être très fort rencontré, j'ai envie de dire, pour qu'il il me fasse pénétrer dans cette intimité. Mais en fait, ce que j'ai réalisé et qui est très émouvant pour moi dans ce film avec les deux couples, c'est qu'en fait, par le truchement de notre caméra et surtout par notre présence et toutes ces conversations et les très longues conversations et les coups de fil et les rencontres qu'on a eues pendant 4 ans hors caméra, je pense qu'ils se sont emparés de cette occasion qui leur a été donnée pour se comprendre un peu eux-mêmes et aussi pour comprendre son partenaire, en l'occurrence son mari ou sa femme, et que finalement j'ai fait cette découverte, moi, de quelque chose qui s'installait entre eux deux et puis eux avec nous, qui était une introspection de toutes ces questions que je me pose. Est-ce que c'est bien normal, toutes ces frustrations que j'ai, est-ce que je vais pouvoir les dépasser, et tout cet amour que j'ai pour l'autre et aussi mon agacement à l'égard de l'autre qui ne me rend pas mère ou ne me rend pas père,
et qui n'est pas tue dans le film. C'est ça qui qui est extrêmement fort. Un jour le téléphone va sonner, Céline et Cédric donc devaient encore attendre des mois et des mois, peut-être encore des années, pour accueillir un bébé du bout du monde, et puis soudain ce sera dans 3 semaines. Ce sera Ninon, elle est en France, elle est dans la même région. Ça arrive si rarement. C'est ce que je disais dans mon introduction. Vous auriez écrit le scénario de ce film. Jamais vous ne l'auriez écrit de cette manière-là.
Vous avez raison. Et lorsque j'ai écrit le projet pour France 2, j'avais écrit effectivement l'histoire de deux couples qui partaient. L'un adopté visiblement aux Philippines, c'est ce qui était prévu pour Céline et Cédric. Et l'autre qui devait partir au Brésil. C'est le cas de Philippe et François. Donc effectivement, je n'avais pas imaginé, tout comme eux, et on voit à quel point c'est un choc.
Alors c'est un choc émotionnel extrêmement puissant. Et là encore, votre caméra, elle est dans la voiture. Là, au moment où Céline et Cédric vont se rendre à ce premier rendez-vous, et c'est toute une construction psychologique, toute cette attente qui s'effondre. Et c'est une crise de larmes monumentale de la part de cette future maman. Elle a peur. Et c'est le mot qui revient tout le temps dans la bouche de cette femme, du début à la fin du film. Elle a peur.
Elle a peur. Elle a tellement attendu. Elle a tellement pensé qu'elle serait maman avec cet homme-là depuis qu'ils se connaissent, lorsqu'ils avaient 17 ans, que tout d'un coup, toutes ces intrusions qui leur ont été faites pendant des années de procédure, parce qu'on parle souvent du temps passé à attendre, de ce fameux parcours du combattant, qui est une expression un peu galvaudée comme ça, mais moi, ce qui me frappe, c'est que c'est pas tant le temps qui passe que toutes ces questions, ces intrusions et ce dont on doit faire preuve pour justifier qu'on va être de bons parents. Nous tous qui avons la chance, beaucoup d'entre nous, d'être des parents biologiques, on se pose pas forcément toutes ces questions-là.
Alors justement, tout ce qu'il va falloir justifier, et on voit bien comment cet autre couple, Philippe et François, couple homosexuel, va s'adresser à la caméra. Donc là, ce ne sont plus des séquences qui sont captées sans s'adresser à la caméra. Vraiment, on va prendre la caméra comme témoin, presque comme instrument argument ou vecteur de plaidoyer, parce que là aussi, il faut justifier. Donc Philippe et François, leur amour est une évidence, leur couple n'a pas connu de doute, l'envie de devenir père, elle est chevillée au corps et à la conscience, sortie d'un rendez-vous avec l'assistante sociale.
Ce qui les a rassurés, et ce qui a fait que on est légitimement en place pour être parents, à tout niveau, tous les deux, et en ça j'en suis hyper fier, c'est qu'elles ont décelé qu'on était deux hommes, donc que l'enfant pouvait avoir finalement une image égale. Et ce qu'elles ont souligné toutes les deux, c'est que notre histoire de vie de 20 ans avec François fait que la différence, elle est là quand même. Par nos histoires de vie différentes, par la personnalité de François et par la mienne, on est potable, quoi, pour être parents. On est potable.
Et c'est là que la caméra, Gainsburger, elle devient un lieu d'affirmation, un lieu de fierté, ce qui est un mot très fort dans l'itinéraire d'un couple gay.
Oui, j'aime bien que vous utilisiez ce mot de fierté parce que c'est en fait c'est une fierté et non pas une revendication. Mm-hmm. Moi, Philippe et François, je les ai choisis précisément parce qu'ils ne sont militants de rien. Mm-hmm. Ce sont des gens ordinaires. C'est un couple qui s'aime depuis 20 ans et ils avaient envie de partager avec moi, puisque je leur ai proposé, ces années. Alors ça nous a mené à 4 ans, ça devait être 3, puis j'ai poursuivi le tournage encore une année, pensant que l'histoire aurait pour eux une issue, en tout cas voulant encore partager tout ce qu'ils avaient à traverser comme épreuve. Donc effectivement, ils ont cette fierté, mais qui n'est pas une fierté de, voilà, nous on est un couple au monde, on a des choses à dire, on est différents et on veut être considérés comme des gens différents et on a des droits. Ce sont des gens ordinaires qui aspirent à vivre de manière ordinaire leur parentalité. Pour autant, je pense qu'ils avaient effectivement envie et besoin de se redresser. Et si je pense qu'on a pu aussi servir à quelque chose au-delà de tracer ces deux itinéraires croisés et aussi raconter cette histoire au plus grand nombre, j'espère que les gens seront nombreux à le regarder, ce documentaire, eh bien j'ai eu envie de les accompagner pour rester debout et avoir la force aussi de cette attente.
Il faut pouvoir rester debout parce que Philippe et François voulaient un enfant de moins de 4 ans, qu'ils accompagneraient dans ses apprentissages. Ce sera sans doute un enfant beaucoup plus âgé, ce sera peut-être même un enfant avec des problèmes de santé. Jusqu'où est-on capable d'aller? En effet, voilà des questions que nous ne nous sommes pas posées, nous, parents biologiques.
Problème infectieux, hépatite B, C, A. Problème orthopédique, mais ça c'est pareil, tout ça c'est des trucs malformations. Alors, ce qui est malformation, après...
Si c'est réparable et opérable,
oui,
rien ne nous
voilà, si c'est réparable et opérable, ça je suis d'accord avec toi. Absence d'oreille sans déficience auditive, absence d'oreille, hein. Problème de vision, vision limitée d'un œil, enfin bon, ça c'est pareil, moi c'est pour le genre de choses qui pose un problème. Psoriasis, voilà, enfant albinos.
La seule limite, je pense, qui est la mienne, c'est le VIH.
Ah oui. Je suis assez d'accord.
Enfin, du moins que ça ressemble à un enfant, c'est pas mal déjà.
Séquence époustouflante et c'est à partir de là que les trajectoires de ces deux familles vont se répondre en miroir. C'est à partir de là que l'injustice et les inégalités deviennent flagrantes parce que pendant ce temps-là arrive ce bébé, donc Ninon, chez Céline et Cédric. Et c'est un bébé parfait. C'est le bébé que les scénaristes ne se seraient pas autorisés. Elle est magnifique, cette petite fille, et tout nage dans un océan de joie, de tendresse, de maternité, de paternité absolument spontanée.
Ce qui était compliqué pour moi, peut-être je vais vous surprendre, mais ce qui était compliqué pour moi à ma place de réalisatrice, c'est de justement pouvoir croiser ces deux histoires sans tomber dans la caricature de chez les uns tout va bien et c'est youyou les petits oiseaux
et pourtant,
tout le monde
est
heureux et c'est ce qui se passe. Et chez les autres, on dégringole. D'abord on attend, on espère, puis on commence à désespérer et puis on voit l'injustice se dessiner. Mais ce que j'ai trouvé intéressant qui est justement fait de Céline et Cédric un couple et des personnages de films merveilleux, c'est qu'en fait cette parentalité, elle est évidemment heureuse avec l'arrivée de Ninon qui est ce bébé parfait qui arrive de France, pas très loin de chez eux, qui n'a aucun problème de santé, qui est très vite une petite fille qui s'adapte, mais les questions demeurent et notamment à travers Céline, et c'est ça que j'avais envie envie d'explorer. C'était comment la maternité est quelque chose qui ne tombe pas sous le sens dans la seconde. Dans notre tête, intellectuellement, on se dit
Céline,
peut-être...
elle est à fleur de peau jusqu'à la fin du film. Elle est travaillée par la question de savoir comment sa fille va vivre cette filiation si particulière.
Et puis, elle a le courage de dire, dès le début, au tout début, je ne suis pas sûre que ce soit encore de l'amour. Ouais. Ça commence, on s'apprivoise.
Elle a le courage de dire, vous avez le courage de lui poser la question. Il faut avoir le courage de poser la question quand on est devant une scène d'amour maternel aussi jolie, aussi tendre et aussi évidente.
Vous savez, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir un langage de vérité de part et d'autre. Et moi, ce qui m'importe, c'est la vérité dans le regard dont on fait preuve les uns sur les autres, dans les mots que je leur dis, pas simplement pour qu'ils acceptent, voilà, m'autorisent à tourner un film avec eux pendant des années, mais c'est tous les jours se dire la vérité.
Beaucoup de vérité dans les mots qu'ils vous adressent. Chez Philippe et François, on attend, c'est long, c'est trop long, et Philippe vous dit justement ces mots magnifiques, « Je n'adopte pas un fantôme, quand viendras-tu mon enfant ?» On n'aime pas dans le vide. Et il finit par comprendre que le dossier n'a jamais été transmis, leur dossier d'adoption, jamais. Ils ont attendu pour rien, on les a bernés. Ce que j'ai entendu et ce qui va suivre, moi je vous le dis vraiment, et je ne suis pas toute seule dans mon équipe, on a tous fondu en larmes.
Je ne sais pas à quel niveau, mais je me suis fait avoir. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on soit dans la file d'attente, Anne. Tu comprends ? Je voulais qu'on soit dans la file d'attente. Moi, je ne voulais pas... Je voulais pas qu'on nous y soit foutu de côté. Moi, je voulais être dans la file d'attente derrière quelqu'un, hein. Pas devant quelqu'un. Pas devant quelqu'un. Moi, j'aurais jamais aimé passer devant un couple hétéro. Jamais. Chacun a sa place dans ce monde. Chacun. Moi, je voulais faire la file d'attente, comme tout le monde.
C'est hyper émouvant. Chacun est à sa place dans ce film. Chacun est à sa place dans la vie, c'est-à-dire le couple hétéro qui va recevoir cette petite Ninon et le couple homo qui est privé. En plus, vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous allez avoir la démonstration qu'il n'y a là-dedans aucune paranoïa et aucune susceptibilité. Ils ont bien été bernés.
Ils ont bien été bernés, et ce qui est important de dire, et ce qui est grave à mes yeux, c'est qu'ils n'ont pas été bernés par une ou deux personnes faisant preuve d'homophobie, qui auraient décidé de contrevenir à la loi, parce qu'il y a une loi, hein, votée il y a tout juste 5 ans, la loi sur le mariage pour tous, qui autorise tous les couples qui veulent adopter, couples hétéros et homo. Donc c'est hors la loi de ne pas donner les chances à tout le monde, c'est aussi simple que ça. Mais je pense pas qu'il doit y avoir, évidemment, hein, dans certains départements, des gens qui, avec courage ou sans courage, font en sorte que les couples n'adoptent pas. Je pense que c'est plus dans leur cas, et c'est très grave, de l'autocensure, dont font preuve tout un tas de gens, qu'ils soient éducateurs, psychologues, puisqu'effectivement, hein, quand un couple a son fameux agrément qui l'autorise à adopter, ce qui a été le cas de Philippe et François, et bien ensuite, il y a tout ce parcours qui fait que, lorsqu'un enfant se présente à l'adoption ou lorsqu'on va adopter un enfant à l'international, eh bien, vous avez un conseil de famille qui est donc l'autorité représentant l'État avec plusieurs personnes autour d'une table qui dit on choisit de confier cet enfant à tel ou tel couple. Et en général, il y a 3 couples. En l'occurrence, on s'est aperçu, et Philippe et François se sont aperçus, que les services se sont sans doute auto-censurés pour ne jamais présenter leur cas au conseil de famille. Le résultat, c'est tout simplement, ça s'appelle de l'homophobie déguisée.
De l'homophobie déguisée, et puis un couple profondément meurtri, et ça, les mots de Philippe sont mais absolument extraordinaires. Quand Philippe... il dit, voilà, on nous maltraite, on nous fragilise, et tout ce qu'on nous demande depuis 10 ans, c'est le contraire. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous demande depuis 10 ans, c'est de prouver la solidité.
C'est ça. C'est la solidité. C'est ce que j'allais vous dire. On nous demande d'être solide et on nous fragilise. Ouais. Et on sait combien les parcours d'adoption font souvent voler en éclats les couples. Et j'ai été témoin de ce moment-là et j'ai mesuré combien leur amour était grand et combien leur courage était grand aussi.
Merci beaucoup, Anne Gainsburger.
Merci à vous.
Voilà, un film qui a fait se rencontrer 2 couples qui dans la vie ne se connaissaient pas et avec qui vous ferez connaissance, vous, ce soir à 23h sur France 2, Roman d'une adoption.